Tout le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Une grande partie des événements évoqués dans l'article du billet précédent ont trouvé des prolongements jusqu'à maintenant. Certains se sont transformés, d'autres ont fusionné, mais des traits de résistance communs aux luttes d'émancipation sociale restent reconnaissables dans ce qui se passe à l'heure actuelle. Dans le cadre des persistances repérables dans l'évolution des luttes sociales, existent évidemment les notions respectives d'individuel ou de collectif. Il peut sembler, par exemple, relever de la première urgence de chercher à définir s'il est préférable d'organiser un front de contestation uni et opérationnel ou de s'épuiser à promouvoir individuellement, dans le cadre forcément restreint de ses relations sociales, une pensée critique souvent mal accueillie. Celle-ci se trouve effectivement souvent renvoyée à une notion de mal-être individuel dans le cadre relationnel de proximité. Ce renvoi peut prendre la forme d'accusations aussi diverses qu'une incapacité d'intégration ou un état de dépression chronique, dans un contexte social jugé par ce même environnement social comme étant au meilleur de ce qu'il peut être. Cependant, la question posée en deux termes de positionnement opposés par des modes opératoires, soit individuels, soit collectifs, présente un certain nombre de difficultés d'appréciation comparative. La première étant justement qu'il serait peut-être temps de cesser de les voir dans les termes d'une volonté d'évaluation comparative pour chercher à les redéfinir dans la perspective d'une volonté de les rendre complémentaires. Car à les évaluer ainsi dans une dimension qui semble antagoniste, on court le risque d'une division partisane qui, de plus, peut occulter le fait qu'individuel et collectif sont de toute manière rendus complémentaires par la réalité même de notre existence. On ne constitue pas de groupe sans individus, pas plus que des individus ne sauraient exister, qu'ils le reconnaissent ou non, en dehors de l'assemblée humaine. Ces deux dimensions complémentaires de notre existence, dès lors qu'elles se trouvent tranchées, ne peuvent que renvoyer à la référence du libéral consommé qui se proclame édifié par lui seul, sans aucune assistance de la collectivité d'une part ou de l'autre, que l'individu ne serait rien sans l'existence d'un entourage collectif, ce qui pose la question de savoir de quoi sont faits les autres, dès lors que l'on considère qu'ils ne représentent rien en tant qu'individu. Ces deux visions respectives d'un humain soit seul et unique, soit n'existant que par les autres, empêchent peut-être d'avoir à se questionner au sujet de la dynamique commune qui existe pourtant, et permet justement aussi bien à l'une qu'à l'autre d'exister. Et d'avoir également sans doute à se questionner au sujet des raisons qui poussent les partisans de l'une ou de l'autre de ces visions à s'affronter dans une quête de parvenir à imposer sa vision comme étant la véritable, et donc, finalement, d'avoir raison. Mais à quoi bien peut servir cette raison-là si elle ne sert justement, et en dernier ressort, la raison elle-même? Si sa motivation n'est pas de chercher à comprendre d'abord les origines de cette ligne de partage dans la pensée générant division sociale plutôt que cohésion. Car de la même façon qu'on pourrait répondre à la question de l'existence de Dieu par le fait que les chrétiens existent tout simplement, on pourrait répondre à cette question de l'être individu ou de l'être social par le fait que ces deux dimensions constituent justement la conscience spirituelle dans la réalité matérielle d'un même individu matériel pensant au sein d'un corps social qui l'est tout autant. Mais on touche là à la dimension de l'âme humaine tout autant qu'à sa réalité matérielle, c'est-à-dire également tout autant aux aspects sensitifs de son intériorité qu'à son intégration et à sa représentation dans la collectivité. Cette question d'une prééminence de l'être, ou individuelle ou collective, et à laquelle je n'apporte pas de réponse parce que je pense que cette réponse réside dans la permanence de son questionnement, devrait sans doute guider l'orientation d'une forme constituée de résistance vers une plus grande humilité à l'égard de la force de cohérence des raisonnements pour tenter de se rapprocher d'une plus grande force de cohésion dans le mouvement. Ce qui reviendrait à dire qu'il conviendrait de chercher à redévelopper notre instinct d'appréciation lucide de l'autre plutôt que de vouloir briller de l'intelligence à savoir le classer dans une catégorie ami ou ennemi. L'article suivant, « Notre utopie contre la leur », paru dans Le Monde diplomatique de mai 1998 et écrit par Serge Halimi, nous rappelle que le capitalisme, bien loin de son présumé caractère naturel, constitue une expérimentation sociale d'une idéologie intraitable et d'une dimension historique extravagante. C'est aussi nous rappeler que, par division idéologique interposée, on pourrait redouter que les revendications d'un monde meilleur ne finissent par s'abîmer dans les méandres de contestations partisanes et donc forcément d'autant affaiblies. Qu'il nous suffise pour ce faire de nous souvenir que ce capitalisme individualiste à outrance sait parfaitement faire preuve d'une solidarité toute communautaire dès lors qu'il s'agit de défendre les intérêts communs qui assurent sa domination. Voici ce texte.
L'actuelle entreprise de restauration néolibérale ne cesse d'invoquer son caractère naturel. C'est oublier que le capitalisme constitue l'expérimentation sociale d'une idéologie intraitable. Le poète surréaliste rêve d'un long rêve où chacun rêverait. Et le romancier rappelle combien de jeunes velléités qui se croyaient pleines de vaillance et qu'a dégonflé tout à coup ce seul mot d'utopie et la crainte de passer pour chimérique aux yeux des gens sensés. Comme si tout grand progrès de l'humanité n'était pas dû à de l'utopie réalisée. Mais pour changer le monde, l'anthropologue, l'économiste, l'historien, le militant ne gagnent rien à se laisser enfermer dans le rôle de Pierrot Lunaire, sympathique et vain, trop disposé à abandonner à ses adversaires la posture avantageuse du charpentier du réel. Car le néolibéralisme est aussi la réalisation d'une utopie et ses illuminations d'autrefois, les plans d'architectes de nos gouvernants. En 1944, à partir d'une analyse se situant aux frontières de l'histoire économique et de l'anthropologie sociale, Karl Polanyi espérait que, puisqu'était conclue la grande transformation qui avait débarrassé le monde de l'utopie du marché autorégulateur, on pouvait enfin entrevoir le début d'une ère de liberté sans précédent, le face-à-face avec la réalité de la société. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé. Ce que Polanyi assimilait à un passé dépassé est redevenu notre quotidien. La grande transformation a cédé la place à la grande restauration. Et cette dernière, présentée à nouveau comme l'état naturel de la société, veut s'imposer, toujours au nom de la liberté, toujours en interdisant qu'on la discute. Le cercle de la raison capitaliste laisse peu de place aux dissidents, c'est-à-dire aux utopistes et aux fous. À ceci près que la folie est ailleurs. C'est dès 1776 qu'Adam Smith théorisa l'éternité philosophique du capitalisme. Au nom d'une certaine propension de la nature humaine à troquer et échanger une chose contre une autre, il postula une loi universelle assimilant optimum collectif et rencontre des égoïsmes économiques. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais du souci qu'ils ont de leur propre intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur amour-propre, et nous ne parlons jamais de nos propres besoins, mais de leurs avantages. L'auteur avait commis une erreur prophétique. Il se voulait l'anthropologue d'une liberté universelle et permanente, il serait le prospectiviste de la meule industrielle et marchande. Polanyi l'a relevé. Aucune interprétation erronée du passé ne se révéla aussi annonciatrice de l'avenir. D'autres ont souligné l'ethnocentrisme extraordinaire d'Adam Smith, qui consiste à penser que le moine, le seigneur, le prêtre inca et l'habitant des îles Tobriand sont mus dans leur vie par les mêmes règles de marché qui déterminent le comportement du courtier de Londres ou du céréalier de l'Iowa. Une telle utopie utilitariste, faisant de l'homme un animal économique éternellement calculateur, ouvrirait néanmoins le chemin à la société de marché et à sa mondialisation. Il y a 150 ans, Karl Marx et Friedrich Engels résumaient déjà le caractère peu naturel de la nouvelle foi et de la nouvelle loi. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels, la bourgeoisie les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autres liens que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Les hommes sont forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. Poussés par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. Des marchés ont assurément précédé l'économie de marché, mais ils restaient isolés les uns des autres, à la fois périphériques et encastrés dans la complexité des relations sociales existantes, où la motivation du gain reste aussi spécifique aux marchands que celle du courage l'est aux chevaliers, celle de la pitié aux prêtres et celle du savoir-faire à l'artisan. Auparavant, la vie s'écoulait au rythme d'une triple obligation : donner, recevoir et rendre. Une fois cette logique du don anéantie au nom de la science nouvelle, le contrat se substitue au statut et le bien remplace le lien. Karl Polanyi insiste sur la nature absolument sans précédent de cette aventure dans l'histoire de la race humaine. Seule désormais la peur de la faim des uns et la soif de profit des autres pousseront l'homme à participer à la vie économique. On ne veut plus permettre que les revenus se forment autrement que par la vente. De même, l'ajustement des prix au changement de la condition du marché ne doit faire l'objet d'aucune intervention. C'est d'abord au Royaume-Uni que se déchaîne une telle utopie libérale, fabrique du diable qui écrasa les hommes et les transforma en masse, attaque d'une férocité intraitable, acte de vivisection pratiqué sur le corps de la société par ceux qui se sont endurcis à la tâche grâce à l'assurance que seule la science peut donner. Pas de revenu minimum, l'homme trouvera son juste prix sur le marché. Parfois, ce sera celui de la famine. Elle ravage l'Irlande en 1847. Près d'un habitant sur cinq y meurt rien que cette année-là. Précisant que les lois de la gravitation ne sont pas plus certaines, David Ricardo, le théoricien du libre-échange, avait expliqué que la protection sociale transformait la richesse et la puissance en misère et en faiblesse. Or, justement, instruit par des expériences pratiquées sur les chèvres et les chiens d'une île du Pacifique, William Townshend prouve l'efficacité d'un aiguillon particulier. La faim apprivoisera les animaux les plus féroces. Elle apprendra la décence et la civilité, l'obéissance et la sujétion aux plus pervers. Cette science libérale est appliquée sur le champ à la loi anglaise de 1834 sur les pauvres. Ils ne seront plus secourus. Après les avoir comparés à des rats, n'a-t-on pas démontré qu'une fois rendus misérables, leur nombre diminuerait ? Depuis, le vocabulaire a changé, mais de récentes décisions américaines et britanniques, suppression de certaines aides sociales, durcissement de la surveillance des classes dangereuses, ne paraissent pas s'inspirer d'un esprit très différent. Pour naturelle et scientifique qu'elle se proclame, l'utopie néolibérale n'aurait jamais survécu sans les brassières de l'intervention publique. L'État déréglemente le travail et la terre, crée ou étend les marchés financiers, fait régner l'ordre. Polanyi a souligné le paradoxe. C'est une affaire très compliquée que de rendre la liberté simple et naturelle d'Adam Smith compatible avec les besoins d'une société humaine. Des citadelles de l'ingérence gouvernementale ont été érigées dans l'intention d'aménager quelques libertés simples, comme celle de la terre, du travail ou de l'administration municipale. C'est ainsi que même ceux dont la philosophie tout entière exigeait la restriction des activités de l'État n'ont pu qu'investir ce même État des pouvoirs, organes et instruments nouveaux nécessaires à l'établissement du laisser-faire. Aujourd'hui encore, la machine administrative et gouvernementale européenne doit tourner à plein régime pour fabriquer de la monnaie unique et du marché. L'accord de libre-échange nord-américain est un texte de 2000 pages foisonnant de réglementations. Pour paralyser les États-nations, détruire les États-providence et garantir le droit sacré des investisseurs, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, déploie des trésors d'imagination et de ruse. La nature néolibérale est décidément bien étrange. Elle a toujours besoin qu'on l'assiste. Au moment où la crise économique de 1873 et l'extension du suffrage universel provoquent enfin le réancrage de l'économie dans la société, l'Europe se trouvait dans les beaux jours du libre-échange. Les nations et les peuples n'étaient que de simples marionnettes dans un spectacle dont ils n'étaient plus du tout les maîtres. Ils se protégeaient du chômage et de l'instabilité à l'aide de banques centrales et de droits de douane, complétés par des lois sur l'immigration. Et c'est alors qu'intervient le second paradoxe. Tandis que l'économie du laisser-faire fut produite par l'action délibérée de l'État, les restrictions ultérieures ont débuté spontanément. Le laisser-faire était planifié, la planification ne l'a pas été. Car l'échec de l'utopie du marché, le risque de chaos né de la désocialisation de l'économie vont contraindre tous les pays industriels à réagir, quelle que soit leur mentalité et leur histoire. Conservateurs et libéraux en Angleterre, catholiques romains et sociodémocrates en Allemagne, ennemis de l'Église et cléricaux en France, la défense de la société contre la dislocation générale a été aussi large que le front de l'attaque. Et ce sera la grande transformation. Elle réglementera et socialisera le contrat de travail, instaurera des lois de protection de l'enfance, imposera des règles sanitaires, contrôlera le prix des denrées de base, orientera les investissements, élargira la sphère de l'économie redistributive, soustraira au marché la maîtrise de la monnaie. La modernité de la fin du XXe siècle trahit donc ainsi la volonté obstinée de revenir sur ses acquis-là et de réhabiliter une utopie néoclassique qui s'est déjà fracassée après avoir provoqué la démolition de la société. Suffirait-il alors d'attendre qu'une nouvelle fois l'implosion du dogme rouvre les espaces démocratiques qui depuis 20 ans s'obturent l'un après l'autre? Le danger d'une telle expectative fait apparaître l'urgence d'une nouvelle utopie. Les deux dernières désintégrations du marché autorégulateur, 1873-1896 et 1929-1935, ont en effet suscité plusieurs types de réponses. Et l'un d'eux, autoritaire puis fasciste, a d'abord consolidé le pouvoir menacé des féodaux qui, face au chaos, surent se faire les avocats des vertus de la nature et de ceux qui la cultivent. Plus tard, l'impasse où s'était mis le capitalisme libéral a débouché en Italie et en Allemagne sur une réforme de l'économie de marché réalisée au prix de l'extirpation de toutes les institutions démocratiques. Mais il y eut aussi, il y a heureusement, l'autre utopie. Celle qui rêva d'un système d'entraide renouant le lien social sans réhabiliter le régime de domination traditionnelle. Celle qui, oubliant un instant les pauvres réalités des veilleurs, cesse de glorifier le travail, la production, celle qui refuse la permanence de ce qui est et démontre les mécanismes d'une fatalité condamnant toujours les mêmes à écouter et à subir. Dans l'histoire, cette utopie-là a permis à des millions d'hommes et de femmes de tenir. Pour être encore debout un jour de juin 1936, d'août 1944 ou de mai 1968. Car des victoires, il y en a eu. Un patronat qui cessa de se croire de droit divin, un État à qui il arriva d'être moins asservi par le mur d'argent, des conquêtes sociales qui n'étaient pas inéluctables, et la volonté actuelle de les anéantir le montre assez. Cette utopie-là vaut bien l'autre. Et c'est aussi grâce à elle que nous avons appris ceci. À une période où les gens sont si nombreux à se retrouver ensemble et à se croire seuls, nous ne sommes pas condamnés à vivre dans le monde où nous vivons.
Ainsi se termine ce billet. À la semaine prochaine pour la suite de l'émission. L'équipe rédactionnelle vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.